Vous écoutez On lit pour vous.
Des bactéries racontent l'histoire de Montréal. Un texte d'Axel Dansereau-Massias paru le 26 avril 2024 dans Québec Science. Pilier de l'histoire montréalaise, le fort de Ville-Marie est au cœur de la mise en œuvre d'une méthode pionnière pour interpréter le passé grâce à la microbiologie. Les vestiges de la forteresse Ville-Marie, située aux abords du canal Lachine à Montréal, sont le lieu de fondation de la métropole. Ils sont aujourd'hui mis en valeur au musée Pointe-à-Calière, qui a récemment ouvert ses portes à des microbiologistes. Leur but? Échantillonner la terre du site archéologique à la recherche de micro-organismes du passé. Sous la direction de Cassandre Lazare, professeur en microbiologie à l'Université du Québec à Montréal, l'étudiante à la maîtrise, Marjorie Colette, a fait équipe avec les archéologues de Pointe-à-Calière pour mener une expérience inédite. L'équipe a collecté 3 carottes de terre sous les installations du musée, là où le sol est protégé des intempéries depuis la construction du fort en 1642. Les scientifiques y ont cherché des micro-organismes dont la présence pourrait confirmer certaines hypothèses archéologiques en témoignant des différentes activités humaines ayant eu lieu sur le site. Des bactéries vivantes ou mortes? L'équipe a d'abord extrait le matériel génétique du sol, de l'ADN et de l'ARN, pour identifier l'ensemble des micro-organismes présents. Comme chaque souche bactérienne possède un ADN unique, tel un code-barre, il servira à les identifier. Mais comment distinguer les ADN de bactéries d'aujourd'hui de ceux datant d'une autre époque? C'est ici qu'entre en jeu l'ARN. Alors que l'ADN contient l'ensemble des gènes d'un organisme, une molécule d'ARN a le rôle de créer des copies de ces gènes. Les bactéries vivantes contiennent beaucoup d'ARN. Autre distinction importante, l'ADN est constitué de 2 brins de polymère, ce qui le rend plus résistant que l'ARN, ne possédant qu'un seul brin. Quand un micro-organisme meurt, il se fossilise comme les autres êtres vivants, explique la jeune étudiante. Ces bactéries fossilisées contiennent de l'ADN qui se conserve dans le temps, mais pas de brin d'ARN, car ceux-ci se décomposent beaucoup plus rapidement. La présence d'ARN indique donc aux scientifiques que le micro-organisme est encore actif. En d'autres mots, l'ADN et l'ARN des échantillons ont été séquencés, puis associés, grâce à des bases de données, à des genres connus de micro-organismes. Lorsque de l'ARN correspondant à ces séquences était également présent, les bactéries en question étaient éliminées des données, puisqu'elles sont forcément contemporaines. Chaque type de micro-organisme aime un milieu précis, mentionne Marjorie Colette. Quand on a trié les bactéries, on en a retrouvé datant de la mer de Champlain, ajoute-t-elle. Cette époque, après la période glaciaire il y a 13 000 ans, où le sud du Québec était submergé par la mer, explique la présence de bactéries marines localisées dans la partie la plus profonde des carottes de terre. La vie dans le fort. Les données de l'étude viennent d'ores et déjà confirmer ou nuancer des hypothèses sur les activités anthropiques du site, estime Hendrik van Gijsegem, chargé de projets en archéologie et histoire à Pointe-à-Calière. Il y aurait eu des cultures potagères à l'intérieur du fort, explique-t-il, en se fiant aux résultats. En effet, certains fragments d'ADN retrouvés sont liés à des bactéries associées à l'agriculture. Quant à la présence d'ADN de bactéries associées aux régions minières et volcaniques, elle consolide le scénario d'une ancienne activité métallurgique. Plus de résultats à venir. La recherche ne fait que commencer. Les prochaines analyses incluront d'autres micro-organismes pouvant apporter plus d'informations ou, au contraire, infirmer certaines hypothèses. Bien que le séquençage de l'ADN du sol soit utilisé depuis longtemps en archéologie et en paléomicrobiologie, l'identification d'anciennes populations bactériennes est une nouvelle application intéressante de cette technique, selon l'équipe de recherche. Hendrik van Gieseghem est optimiste face à l'avenir de l'association de l'archéologie et de la microbiologie, deux approches qu'il juge complémentaires. Il se réjouit de pouvoir approfondir les connaissances historiques sur Montréal grâce à cette technique. Sans préjugés ni biais, les bactéries ne trichent pas. C'était « Des bactéries racontent l'histoire de Montréal », un texte d'Axel Dansereau-Massias paru le 26 avril 2024 dans Québec Science.
La STM appelle à l'aide. Un texte de Henri Ouellette Vézina paru le 29 mars 2024 dans la presse. Dépassé par l'augmentation du sentiment d'insécurité dans le métro, la Société de transport de Montréal, STM, veut revoir le modèle d'intervention auprès des personnes vulnérables en impliquant plus de ressources. En attendant, plusieurs solutions existent pour redonner confiance aux usagers, plaident des spécialistes. Un modèle à revoir. On est là pour intervenir, mais là où on a besoin d'aide, c'est avec la prise en charge de cas de problèmes de santé mentale, de toxicomanie. On a plusieurs usagers vulnérables qui ont de graves problèmes de santé et c'est l'une des causes de la dégradation de la perception de la sécurité dans notre réseau, affirme le président de la STM, Eric Alan Caldwell, en entrevue avec la presse. S'ils saluent leur travail du quotidien, ils affirment que le réseau de la santé et le tissu communautaire montréalais devraient avoir plus de ressources consacrées au métro dans le contexte. C'est tout un modèle d'intervention à revoir, avec un plus grand volume d'intervention, estime M. Caldwell. Ultimement, s'il n'y a pas de prise en charge derrière nos interventions, ce sont juste des portes tournantes et on ne règle pas de façon structurelle les enjeux. L'exemple de Philadelphie. Pour le directeur de la Sûreté du transporteur, Jocelyn Latulippe, la santé publique doit être davantage autour de la table. On est rendu depuis la pandémie avec des personnes qui vivent dans le réseau littéralement. Ces gens-là, on n'est pas équipés pour les faire vivre, les soutenir, dit-il. Selon lui, l'exemple de Philadelphie, où le nombre d'incidents a diminué du tiers après l'embauche ciblée de travailleurs sociaux, c'est vers là qu'on veut aller. À ce jour, la STM dispose de 8 travailleurs sociaux, mais aimerait doubler leur nombre l'an prochain. La société compte aussi déjà sur 3 unités de l'équipe métro d'intervention et de concertation, EMIC, composée d'un travailleur social, un policier et un constable spécial. On pourrait avoir 6 équipes EMIC, tellement la charge est trop lourde. On a un peu atteint notre limite, note M. Latulippe, qui espère aussi qu'on rebatte les cartes. Le logement, encore et toujours. Cette sortie de crise ne peut pas venir de la seule STM. Il faut prendre le problème à la source, juge quant à elle la professeure en études urbaines et spécialiste des questions de transport collectif de l'UQAM, Florence Junca-Adenau. À ses yeux, la vraie solution n'est pas simple et implique plusieurs ordres de gouvernement, mais elle est pourtant la plus forte. Il faut accélérer le développement de logements sociaux et abordables, point à la ligne. En attendant, dans le métro, ça prend plus d'agents en soutien social pour trouver un accommodement raisonnable aux personnes vulnérables. ça peut être l'accès à des refuges, mais aussi un accompagnement de cheminement et de réinsertion sociale, voire, dans certains cas, des hospitalisations. Mais il faut agir plus promptement, tonne la professeure. Le métro souvent devenu un refuge. Selon la directrice générale de Trajectoire Québec, Sarah V. Doyon, il serait intéressant d'augmenter le nombre de sites d'injection supervisée, SIS, autour des stations où la consommation est devenue un enjeu, pour éviter que les ascenseurs, comme on le voit souvent, deviennent des sites d'injection de fortune. C'est la même chose pour l'itinérance de façon générale. Si le réseau du métro devient souvent un refuge, c'est parce que dans plusieurs secteurs, ces gens-là n'ont pas d'autre endroit où aller. Si on offrait plus de services, on n'en serait pas là, dit Mme Doyon. Pour le reste, ajoute-t-elle, il faut que le personnel de la STM soit plus visible. On ne voit pas encore nécessairement les effets de l'augmentation récente des constables, mais il va certainement venir, et il faudra le sentir. Qui dit sécurité dit propreté. À l'Université de Montréal, l'expert en planification des transports, Pierre Barriot, estime de son côté que plusieurs petits gestes peuvent ultimement changer la perception de sécurité chez les usagers, même si la problématique reste excessivement large. Avoir des stations bien éclairées, sans recoins, c'est un aspect. La propreté aussi, malgré tout, donne un sentiment de sécurité. Et pour moi, avoir un préposé à l'entrée de toutes les stations, ce qu'on voit moins le soir, c'est essentiel, poursuit-il. Soit on décide d'améliorer nos services sociaux pour mieux aider ces gens-là, soit on finance adéquatement la STM pour qu'elle s'occupe mieux des usagers vulnérables dans son réseau. Sinon, ça ne se réglera jamais, conclut M. Barriot, en disant espérer une mobilisation de tous les acteurs dans ce dossier. En savoir plus, source STM. 38% en février 2024. Un sondage réalisé par la STM avait montré que le sentiment d'insécurité touchait 38% des usagers. Autrement dit, à peine les deux tiers, 62% des usagers se sentiraient actuellement en sécurité dans le métro et les autobus. 160. C'est le nombre de constables spéciaux qui sont actuellement employés de la STM, qui veut en avoir 200 à partir de l'hiver prochain. Ils reçoivent une formation en assistance de première ligne aux personnes vulnérables. C'était « La STM appelle à l'aide », un texte de Henri Ouellette Vézina, paru le 29 mars 2024 dans la presse.
Des arbres génétiquement modifiés contre les incendies. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 14 avril 2024 dans la presse. Jean Pellerin, un lecteur, demande « Est-il possible de génétiquement créer une espèce d'arbre qui ne brûlerait pas ou presque pas dans un incendie de forêt? » Oui, mais il s'agit d'arbres génétiquement modifiés pour être moins vulnérables aux insectes. Si l'arbre est plus en santé, il sera plus résistant au feu, explique Armand Séguin, biologiste au Service canadien de la forêt, SCF. La tordeuse a défolié beaucoup de conifères au Canada. En plus, les aiguilles mortes sur le sol sont très inflammables. M. Séguin a fait l'un des seuls tests au Canada d'arbres transgéniques, il y a 20 ans au Canada. Il s'agissait d'épinettes qui contenaient un gène exprimant la bactérie Bacillus thuringiensis, BT, qui a des propriétés pesticides, protégeant notamment contre la tordeuse. Beaucoup de semences agricoles transgéniques ont ce gène BT. On a fait ça dans un secteur fermé pour voir s'il y avait un impact sur la composition du sol, dit M. Séguin. Ça a été un succès. Les arbres étaient plus résistants aux insectes, ils exprimaient du BT et il n'y avait pas d'effet important sur l'écosystème. Mais le discours public sur les arbres transgéniques a pris une direction négative. Alors, il n'y a jamais eu de suite à ces recherches. L'essai a été fait près de Valcartier, dans un terrain servant aux essais fermés du SCF. Il s'est terminé en 2007 par la destruction de toutes les épinettes génétiquement modifiées, GM. Auparavant, M. Séguin avait fait la preuve qu'il était possible d'avoir des arbres GM avec des peupliers et une bactérie inoffensive. Par après, il a fait un test de peuplier GM visant la production de bioéthanol. Eucalyptus. Serait-il possible d'avoir des arbres GM résistants au feu d'autre manière? Les bois durs sont plus résistants au feu. C'est pour ça qu'en camping, on fait des feux d'épinette, un bois avec beaucoup de résine qui prend feu rapidement, plutôt que de feuillus plus nobles comme l'érable, qui brûlent plus lentement. Mais il est difficile d'augmenter la quantité de lignine qui donne sa dureté au bois parce qu'elle dépend de beaucoup de gènes, nous répond Armand Séguin. Des recherches ont eu lieu avec l'objectif inverse, diminuer la quantité de lignine dans les feuillus pour favoriser la production de papier. On a vu qu'il y a un coût métabolique pour l'arbre de produire plus de lignine, alors on peut se demander si ces arbres GM pousseraient assez rapidement. Les arbustes qui poussent rapidement, comme l'eucalyptus, ont d'ailleurs moins de lignine et plus d'eau. Mais il serait aussi difficile d'avoir des arbres GM ayant plus d'eau, toujours parce que c'est un trait qui dépend de plusieurs gènes. Un comité du Forest Stewardship Council, une ONG allemande qui certifie les forêts durables, s'est penché il y a quelques années sur la pertinence d'accepter les arbres GM. On m'avait approché pour faire partie du comité, mais je n'avais pas le temps, dit M. Séguin. Finalement, les discussions ont été abandonnées. S'il n'y a pas de marché, pas de certification possible, il n'y aura pas de développement commercial. C'est dommage, parce que le gène BT, c'est naturel. Les arbres GM sont naturels, martèle-t-il, même si son opinion ne fait pas consensus dans la société. En savoir plus. Source Ressources naturelles Canada. 10 millions d'hectares. Superficie des forêts québécoises qui ont subi une défoliation modérée à sévère à cause de la tordeuse des bourgeons de l'épinette depuis 2006. Source Sopfeu. 4,3 millions d'hectares. Superficie des forêts ravagées par des incendies au Québec en 2023. C'était des arbres génétiquement modifiés contre les incendies. Un texte de Mathieu Perrault paru le 14 avril 2024 dans La Presse.
Les champs perdus de la nature, le paysage sonore du Québec. Un texte de Caroline Monpty paru le 22 avril 2024 dans Le Devoir. Michel Leboeuf entend de moins en moins bien, lui qui a passé sa vie à distinguer les chants des oiseaux dans les bois. Pour ne rien oublier de ce concert aérien, il a noté le « honk honk » des bernaches, le « oui » de la buse et même le vrombissement des ailes des moustiques femelles qui attirent les mâles. Cela donne « Les chants perdus de la nature, bienvenue en anthropophonie ». Son dernier essai qui paraît chez Multimonde. Michel Leboeuf est biologiste. Aujourd'hui semi-retraité, il a arpenté durant des années les bois de Lanaudière pour la fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière et a aussi dirigé la revue Nature sauvage durant 10 ans. Spécialiste des oiseaux, il s'est longtemps laissé guider au son pour identifier les différentes espèces qui peuplent nos forêts. Pour lui, dès qu'on franchit l'orée d'un bois, l'ouïe prend le dessus sur la vue. On dirait qu'on rallume notre sens de l'audition quand on va dans la nature. Comme on ne voit pas très loin ni très bien en forêt, l'audition fait en sorte qu'on est capable de percevoir ce qui est autour de nous, raconte-t-il. Le matin de notre entrevue, il a entendu les pas d'une grosse bête invisible, un orignal ou un cerf de Virginie, à travers le bruit des branches craquant sous son poids. « Je savais qu'elle était là, » dit-il. L'être humain est avant tout un organisme visuel, note le biologiste Raphaël Proux dans sa préface de l'ouvrage. Notre acuité visuelle est l'une des plus développées du monde animal, derrière une poignée d'oiseaux prédateurs. Cependant, c'est la communication par le son qui nous a permis de transmettre nos connaissances, de les entreposer dans notre savoir culturel de bouche à oreille. Ce savoir s'est transmis oralement de génération en génération. L'humain moderne est un organisme résolument vocal. Pour Michel Leboeuf, c'est l'écriture qui a donné préséance à la vue chez l'homme au détriment de l'audition. Depuis, la vision règne en maître sur notre environnement sensoriel et cette domination s'est accrue avec le siècle des Lumières, un tournant qui célèbre la mainmise de la science et de la technique sur la société. Jadis, la transmission s'effectuait sur du papier. Désormais, c'est sur du support numérique. Seules les sociétés traditionnelles ont conservé la transmission orale comme mode de diffusion, écrit-il. C'est donc à une expérience sensorielle inusitée que le scientifique nous convie. Pour le suivre, il faut en premier lieu trouver une forêt, puis fermer les yeux et écouter. Les plus anciens de tous les sons, ceux des phénomènes naturels, qu'il appelle géophonie, sont ceux du tonnerre, de la pluie, du grésil, d'une rivière agitée, d'une cascade, des vagues qui viennent mourir sur la plage. C'est tout à la fois la voix du ciel, de la terre et de la mer. Une voix ancienne de plus de 500 millions d'années, qui a longtemps été seule sur Terre, écrit-il. Puis vient la biophonie, la voix des organismes vivants, qui nous est parfois transmise par d'étranges gymnastiques. Une gymnastique sonore. D'abord, les insectes et les champignons. Pour émettre ces stridulations estivales, le criquet frotte en un mouvement de va-et-vient très rapide la partie postérieure de son fémur contre la marge de ses ailes, décrit Michel Leboeuf. Le beluga émet quant à lui des ultrasons. En utilisant sa mâchoire et les tissus adipeux et fibreux de son front bombé. Enfin, l'anthropophonie intègre les bruits humains. Inutile de dire que ces sons ont de plus en plus tendance à enterrer tous les autres. Bruit des voitures filant sur les routes, bruit des tondeuses à gazon, bruit des klaxons et des marteaux-piqueurs. Y a-t-il moyen d'y échapper? En effet, il n'y a pas que les humains que la pollution sonore stresse. Les scientifiques ont démontré que le tétra des armoises, un oiseau des plaines de l'Ouest américain, produit 16,7% plus de cortisol lorsqu'il est exposé à des niveaux de bruit élevés. Michel Leboeuf avance même que le bruit assourdissant a un effet sur la pousse des forêts, car les jets, responsables de la dispersion des graines, fuient les lieux où la pollution sonore est trop élevée. Le bruit familier d'une abeille butineuse ou d'un papillon aurait pour sa part un effet stimulant sur certaines fleurs. En effet, des chercheurs ont démontré que l'onagre bisannuel élève son taux de sucre en moins de 3 minutes lorsqu'elle perçoit cette fréquence. En élevant le taux de sucre jusqu'à 20 % de plus de son nectar pour le rendre plus attractif, la plante reçoit une plus longue visite de l'insecte sur sa fleur et donc une plus grande quantité de pollen se colle sur les pattes de l'insecte. Le plant a ainsi davantage de chances de féconder d'autres fleurs d'onagre dans le même secteur et de transmettre son patrimoine génétique à la génération suivante, écrit Michel Leboeuf. En entrevue, il explique que c'est la technologie qui a permis à l'écologie acoustique de se développer au cours des dernières années. La technologie nous permet maintenant de laisser des équipements pendant des semaines dans la forêt et d'enregistrer en continu. C'est une source de données incroyable, dit-il. On peut enregistrer des chauves-souris, par exemple, dont les ultrasons nous sont inaudibles, et ensuite les reproduire en haussant le volume. Orchestre animal. Dans le règne animal, le son est intimement lié à la survie. On décèle le chant des amours, associé à la reproduction, les chants de guerre ou de défense du territoire, et aussi les chants de contact, d'alarme et de détresse. Selon une théorie, les chants des espèces sont dispersés de façon que chacune puisse se faire entendre. C'est une théorie qui roule depuis plusieurs décennies, dit-il. L'hypothèse viendrait de Bernie Krause, un musicien qui a fini par consacrer de longues études au sujet. Je pense qu'il dit que toutes les espèces s'arrangent entre elles pour émettre des fréquences différentes, de façon qu'elles puissent faire passer leur message. C'est ainsi que des oiseaux, émettant des fréquences plus graves, qui voyagent plus facilement, comme le bruant à gorge blanche ou la grive à dos olive, se tiennent au bas des arbres, tandis que ceux dont le chant est plus aigu, comme le bruant des champs ou le roitelet à couronne dorée, restent au sommet, profitant davantage de la portée du vent. Chaque printemps, j'entends de moins en moins. Ça a été le déclencheur pour essayer de décrire le paysage sonore avant que je ne m'en souvienne plus, nous dit Michel Leboeuf. Le livre de Michel Leboeuf a toutefois des accents d'adieu. La colonisation humaine menace notre paysage sonore. Michel Leboeuf reprend l'injonction de protéger 30% du territoire québécois du développement, mais il croit que des efforts supplémentaires devraient être faits dans le sud du Québec, notamment dans les réserves fauniques. On est tous d'accord avec le principe de protéger 30% du territoire, mais ce territoire est plus difficile à trouver dans le sud du Québec parce qu'on est sur des terres privées la plupart du temps. C'est sûr que de telles mesures feraient grincer des dents les compagnies forestières, mais il y a sûrement moyen d'aller chercher des superficies protégées dans ces réserves-là, dans ces territoires-là qui sont déjà bien balisés. C'est facile d'aller chercher là plusieurs dizaines d'hectares protégés, voire des centaines ou des milliers. Il n'est pas trop tard pour agir sur la biodiversité, souligne-t-il. Il est d'ailleurs ravi que son livre sorte au printemps, parce que c'est au printemps que la chorale est la plus forte, que les oiseaux et les grenouilles chantent, etc. Chaque printemps, j'entends de moins en moins. Ça a été le déclencheur pour essayer de décrire le paysage sonore avant que je ne m'en souvienne plus. C'était Les champs perdus de la nature, le paysage sonore du Québec, un texte de Caroline Monpty, paru le 22 avril 2024 dans Le Devoir.